L'avenir du monde repose sur l'EPR de Flamanville. Et c'est un avenir incertain, plein de vices cachés, de malfaçons invisibles, de défauts structurels. Des falsifications à la fonderie du Creusot ont ainsi affecté la crédibilité de sa cuve. Et on se souvient des aventures d'une autre pièce de métal géante, l'hélice du porte-avions Charles de Gaulle et de sa rupture mystérieuse au large de la Guadeloupe. L'inconnue financière est peut-être plus inquiétante encore. À mesure que le chantier s'allonge, le coût du futur réacteur nucléaire explose et irradie les finances publiques. Je me souviens d'une nuit, sur la presqu'île du Cotentin, quand une alarme incendie m'avait brutalement arraché au sommeil et précipité en caleçon dans un couloir, peuplé de mystérieux ouvriers parlant une langue inconnue. L'EPR voisin ressemblait soudain au chantier de la tour de Babel, frappé, hurlante, par la malédiction divine. Et la malédiction pourrait avoir commencé. EDF, l'électricien national, le cadeau du Conseil national de la résistance à la France libérée, le remodeleur des paysages, le garant de l'indépendance nationale, pourrait n'être plus qu'une modeste balane accrochée à la grosse voûte grise de l'enceinte de confinement du futur EPR. La France n'est peut-être à son tour entraînée par les choix hasardeux de l'électricien qu'un autre coquillage accroché à la coque de ce naufrage industriel, de cette future faillite de la filière électronucléaire et de celle d'un État rendu par la dissuasion nucléaire, étroitement dépendant de celle-ci. On assiste peut-être là moins à un chantier qui prend du retard qu'à la cause probable de la rétrogression imminente et brutale de la France du rang de puissance à celui de pays. Le décrochage industriel avec l'Allemagne n'aurait été qu'un avant-goût, bientôt la France serait entraînée avec sa technologie morte dans des abysses de décadence. Alors on s'interroge ici ou là sur la nécessité de continuer ce chantier et les arguments écologiques et financiers s'enchaîneraient sans difficulté s'il n'y avait eu l'apparition providentielle d'un argument climatique. On a beaucoup vu passer ces derniers jours un diagramme qui classait les différentes sources d'énergie électrique exploitées par les pays européens selon deux critères, leur puissance en mégawatts et leur rejet de CO2 par kilowatt-heure. La Pologne représentait un petit nuage de points gris charbon en haut à gauche. La Suède, abreuvée d'hydroélectricité, générait à peu près la même énergie sans presque s'allier le ciel. L'Allemagne, énorme et orange, se démenait tout à droite, écartelée entre ses milliers d'éoliennes et ses mines de lignite géantes. La France, enfin, était tapie tout en bas. Ses réacteurs nucléaires en avaient fait le pays industriel au rejet de CO2 les plus faibles, un modèle de vertu climatique. L'équation ainsi présentée était d'une simplicité redoutable. La seule porte de sortie, la seule issue à la crise climatique, à moins d'un hypothétique changement de civilisation ou d'un effondrement immédiat de celle-ci, consistait à construire massivement des centrales nucléaires à travers le monde. C'était déjà ce que préconisait le biochimiste anglais Lovelock, l'un des inventeurs de l'anthropocène. Il faudrait, disait-il, faire sortir de terre un réacteur nucléaire par semaine pendant les 20 prochaines années pour enrayer le réchauffement climatique. Les conséquences véritablement catastrophiques des accidents de Tchernobyl et Fukushima sont dans l'arrêt brutal des mises en œuvre de nouveaux projets nucléaires qu'ils ont entraînés, aucune catastrophe nucléaire ne pouvant avoir de conséquences plus néfastes que ce réchauffement irréversible. Alors que Lovelock va fêter en juillet ses 100 ans.
Et sa bulle de filtre, ses ravages environnementaux, on avait vu un activiste numérique du nom d'Eliott Lopez développer un plugin qui vous emmène toujours vers une librairie lorsque vous cherchez un livre sur Amazon. On a vu les librairies indépendantes se fédérer pour que vous commandiez en ligne ou que vous alliez chercher ensuite dans l'un des points relais. Mais rappelez-vous, il faut toujours faire ce choix de la librairie physique. C'est ce que nous dit Incognita, Incognita. Sans hasard innocent, pas de rencontre. Pas d'altérité, pas d'accident, bref, rien de ce qui fait l'individu.
Merci beaucoup Mathilde Serrel. François-Henri Désérable, vous êtes romancier, vous êtes un digital natif, puisque vous êtes jeune, donc quand vous êtes né, et il y avait déjà Amazon. Qu'est-ce que ça change, si ça change quelque chose à votre rapport à la littérature par rapport à celui de vos aînés?
Votre chronique était très belle. C'est vrai, ce qu'il y a de plus beau dans la rencontre, ce sont sans doute les hasards qui y président. Et je crois que les libraires sont aujourd'hui les garants de la sauvegarde de la littérature. Et je pense qu'Aurélien Bélanger sera d'accord avec moi. S'il n'y avait plus de libraires aujourd'hui, il n'y aurait plus de littérature. Amazon ne permettrait pas aux véritables écrivains de trouver leur public.
Mais vous, par exemple, quand vous nous dites que vous avez découvert Gary, là, cette fois-ci, c'était avec l'école, c'est au lycée que vous avez lu Gary. Pour le reste, les autres découvertes littéraires que vous avez faites, c'était en librairie, c'était au travers de la critique littéraire?
Au travers de la critique et puis au travers du bouche à oreille, c'est-à-dire des amis qui sont de grands lecteurs et qui me recommandent la lecture de certains livres.
Une anachronique culturelle aujourd'hui, l'émission en podcast natif que vous pouvez télécharger et podcaster, Mathilde Serrel.
Oh, Pompéi. jardin de l'Italie, au Pompéi, c'était toi la plus jolie.
Puisqu'on va voyager dans le temps lors de ce festival Imagine samedi et dimanche au centre Pompidou, de la préhistoire à la fin du monde, j'ai décidé de vous faire une petite découverte. C'est la première fin du monde, une sorte d'instantané de la première fin du monde. Nous sommes en 1748 et à la cour des Bourbons de Naples et de Sicile, le roi Charles va lancer des fouilles en compagnie. On découvre alors Pompéi, cette cité antique romaine qui a été détruite mais figée sous des roches volcaniques détruites lors de l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Et bien cet instantané de vie et de mort et de première fin du monde va irriguer ensuite toute la création et c'est également la naissance de l'archéologie moderne.
On retrouve l'anachronique culturelle sur le site de France Culture, franceculture.fr. Voici la conclusion d'Aurélien Bélanger.
L'avenir du monde repose sur l'EPR de Flamanville. Et c'est un avenir incertain, plein de vices cachés, de malfaçons invisibles, de défauts structurels. Des falsifications à la fonderie du Creusot ont ainsi affecté la crédibilité de sa cuve. Et on se souvient des aventures d'une autre pièce de métal géante, l'hélice du porte-avions Charles de Gaulle et de sa rupture mystérieuse au large de la Guadeloupe. L'inconnue financière est peut-être plus inquiétante encore. À mesure que le chantier s'allonge, le coût du futur réacteur nucléaire explose et irradie les finances publiques. Je me souviens d'une nuit, sur la presqu'île du Cotentin, quand une alarme incendie m'avait brutalement arraché au sommeil et précipité en caleçon dans un couloir peuplé de mystérieux ouvriers parlant une langue inconnue. L'EPR voisin ressemblait soudain au chantier de la tour de Babel, frappé hurlante par la malédiction divine. Et la malédiction pourrait avoir commencé. EDF, l'électricien national, le cadeau du Conseil national de la résistance à la France libérée, le remodeleur des paysages, le garant de l'indépendance nationale, pourrait n'être plus qu'une modeste balane accrochée à la grosse voûte grise de l'enceinte de confinement du futur EPR. La France n'est peut-être à son tour, entraînée par les choix hasardeux de l'électricien, qu'un autre coquillage accroché à la coque de ce naufrage industriel, de cette future faillite de la filière électronucléaire et de celle d'un État rendu par la dissuasion nucléaire, étroitement dépendant de celle-ci. On assiste peut-être là moins à un chantier qui prend du retard qu'à la cause probable de la rétrogression imminente et brutale de la France, du rang de puissance à celui de pays. Le décrochage industriel avec l'Allemagne n'aurait été qu'un avant-goût. Bientôt la France serait entraînée avec sa technologie morte dans des abysses de décadence. Alors on s'interroge ici ou là sur la nécessité de continuer ce chantier et les arguments écologiques et financiers s'enchaîneraient sans difficulté s'il n'y avait eu l'apparition providentielle d'un argument climatique. On a beaucoup vu passer ces derniers jours un diagramme qui classait les différentes sources d'énergie électrique exploitées par les pays européens selon deux critères, leur puissance en mégawatts et leur rejet de CO2 par kilowatt-heure. La Pologne représentait un petit nuage de points gris charbon en haut à gauche. La Suède, abreuvée d'hydroélectricité, générait à peu près la même énergie sans presque salir le ciel. L'Allemagne, énorme et orange, se démenait tout à droite et cartelée entre ses milliers d'éoliennes et ses mines de lignite géantes. La France, enfin, était tapie tout en bas. Ses réacteurs nucléaires en avaient fait le pays industriel au rejet de CO2 les plus faibles, un modèle de vertu climatique. L'équation ainsi présentée était d'une simplicité redoutable. La seule porte de sortie, la seule issue à la crise climatique, à moins d'un hypothétique changement de civilisation ou d'un effondrement immédiat de celle-ci, consistait à construire massivement des centrales nucléaires à travers le monde. C'était déjà ce que préconisait le biochimiste anglais Lovelock, l'un des inventeurs de l'anthropocène. Il faudrait, disait-il, faire sortir de terre un réacteur nucléaire par semaine pendant les 20 prochaines années pour enrayer le réchauffement climatique. Les conséquences véritablement catastrophiques des accidents de Tchernobyl et Fukushima sont dans l'arrêt brutal des mises en œuvre de nouveaux projets nucléaires qu'ils ont entraînés, aucune catastrophe nucléaire ne pouvant avoir de conséquences plus néfastes que ce réchauffement irréversible. Alors que Lovelock va fêter en juillet ses 100 ans, je l'imagine.
D'une certaine tradition de France Culture à l'antenne de France Culture, vous vous souvenez que pendant plus d'une trentaine d'années, une émission a ravi un certain nombre de nos auditrices et auditeurs qui s'appelait Les Papous dans la tête. Cette émission a été s'est interrompue cet été sur le choix, la volonté de la productrice, laissant orphelin un certain nombre de nos auditrices auditeurs, mais aussi des membres éminents de la bande des Papous. Et donc, nous avons travaillé depuis septembre avec certains d'entre eux et en particulier avec Odile Conseil, qui sera la nouvelle productrice de cette nouvelle émission d'humour et de jeux littéraires sur France Culture. Nous avons travaillé à la refonte d'une émission qui aura lieu en public samedi et dimanche au Centre Pompidou à partir de 20h30. À l'antenne, ce sera cet été, à partir du 6 juillet, mais enfin voilà, le 11 et le 12 mai, le 1er juillet au Centre Pompidou, le 11 juillet au Festival d'Avignon, vous allez voir revenir à l'antenne de France Culture et en public ce type de proposition d'émission qui nous est très spécifique. Alors elle sera pas du tout comme les précédentes, si on retrouve un certain nombre des anciens papous, on va trouver des invités, on va trouver un thème central, le thème de cette première émission du 11 mai tournera autour de la préhistoire. D'ailleurs, ça, en clin d'œil à un autre écrivain célèbre, cette émission a été titrée ça débute comme ça. Donc il sera question du début, c'est-à-dire de la préhistoire, avec toute une bande d'épinglés, puisque cette émission s'appelle l'épingle du jeu et qu'ils ont choisi de s'appeler les épinglés. Alors un certain nombre d'épinglés que vous connaissez, parmi lesquels Jérôme Clément, Jeanne Carillon, qui vous citez, Gérard Mordilla et un certain nombre d'autres, et puis un grand invité qui sera samedi Guillaume Meurice, que l'on connaît bien, notre ami d'Inter, et puis dimanche ce sera Jean-Michel Ribe qui sera le grand invité. Et donc, on va passer un bon moment, plein d'humour et de culture.
Et puis donc, ce week-end, on peut aller au festival Imagine au Centre Pompidou. Et il y a également...
Oui, mais ça, c'est le soir. Alors, le matin, on peut faire autre chose. C'est ça que vous vouliez me dire. Non, dimanche matin, vous rappelez la dernière émission de l'Esprit Public, en public... du Théâtre de l'Europe, Théâtre de l'Odéon, il y sera question de l'Europe, il y sera question aussi de Donald Trump, et ce sera avec Monique Cantos-Perber, Danny Cohn-Bendit, Philippe Manière et Thierry Pêche. Il reste quelques places, vous pouvez vous inscrire sur le site de France Culture, donc l'Esprit Public en direct, et ce sera dimanche à 11h.
On s'occupe de vos week-ends, on s'occupe également de vos lectures. Mathilde, dans votre billet culturel, il est question de livres et un en particulier qui tue Amazon.
À quoi sert une librairie à trouver ce qu'on ne cherchait pas? Vous en parliez d'ailleurs tout à l'heure. Voilà une réponse qui, en un sens, tue Amazon. Elle est au cœur d'un petit livre violet d'à peine 50 pages, signé de l'étymologiste anglais Mark Forsyth et publié aux éditions du Sonneur, intitulé Incognita, Incognita. C'est une ode résistante à l'aléatoire, un petit manuel de survie en milieu algorithmé. Tandis que le patron d'Amazon, Jeff Bezos, promet la lune, pas au sens poétique, mais au sens prosaïque, avec son gros alunisseur qu'il vient de présenter à la presse, Incognita, Incognita nous propose de voyager en terre inconnue, inconnue. Allez chercher la lune, tandis que votre terrain de jeu se rétrécit sur terre, voilà l'horizon imaginaire qui est proposé par Jeff Bezos, bien étroit. Depuis qu'elles ont été théorisées et démontrées, nous savons que les bulles de filtre des plateformes numériques nous enferme dans un cocon culturel, tout en nous donnant la confortable illusion d'avoir accès à une profusion de savoir. Or, face à ce buffet débordant de victuailles, nous dirigeons sans cesse, et sans même nous en rendre compte, toujours vers les mêmes plats. Seul le hasard, l'aléatoire, les rencontres non désirées, qui par ailleurs peuplent la littérature, de Roméo et Juliette de Shakespeare, Aurélien d'Aragon, en passant par Orgueil et Préjugé de Jane Austen, peuvent nous emmener là où nous ne savions pas que nous voulions aller. Une librairie, c'est précisément cela. Et c'est ce qui est démontré dans cet ouvrage, une rencontre non désirée et déterminante. Un hasard non reproductible qui vous pousse vers une couverture sur une table ou une tranche de reliure dans un rayonnage. Bien sûr, il existe une sérendipité du web, c'est-à-dire ce navigateur qui vous permet d'aller de page en page, mais votre navigation est orientée par les moteurs de recherche, les plateformes, les algorithmes. Donc vous avez beau essayer d'éviter votre double numérique, il vous retrouvera toujours. Les meilleures choses sont celles que vous n'auriez jamais su vouloir jusqu'à ce que vous les ayez, écrit Mark Forsyth dans Incognita, Incognita. Il cite encore Donald Rumsfeld, ancien faucon de la politique américaine qu'on n'attendait pas en prophète. Cette phrase de Donald Rumsfeld, il y a des choses que nous savons savoir, d'autres que nous savons ne pas savoir. C'est-à-dire que nous savons ne pas savoir pour le moment, par exemple, je n'ai pas encore lu Guerre et Paix, si c'est votre cas, de Tolstoï, mais il y a aussi des choses que nous ne savons pas ne pas savoir. Et c'est absolument vers cela qu'il faut tendre. Une librairie est en ce sens une des rares possibilités d'y accéder, de provoquer une situation où c'est possible, de faire exister cette réalité intangible. La préciser dans Incognita, Incognita, c'est faire bourgeonner le livre de rencontres inopinées et déterminantes avec des livres dans des librairies, des hasards qui vous font lire Chuck Palahniuk après avoir simplement choisi un de ses livres pour la couverture, en l'occurrence Saucisse, œuf et bacon, le jour où vous aviez faim. Dans la résistance à Amazon et sa bulle de filtre, ses ravages environnementaux, on avait vu un activiste numérique du nom d'Eliott Lopez développer un plugin qui vous emmène toujours vers une librairie lorsque vous cherchez un livre sur Amazon. On a vu les librairies indépendantes se fédérer pour que vous commandiez en ligne ou que vous alliez chercher ensuite dans l'un des points relais. Mais rappelez-vous, il faut toujours faire ce choix de la librairie physique. C'est ce que nous dit Incognita, Incognita. Sans hasard innocent, pas de rencontre, pas d'altérité, pas d'accident, bref, rien de ce qui fait l'individu.
Merci beaucoup Mathilde Sérel. François-Henri Désérable, vous êtes romancier, vous êtes un digital natif, puisque vous êtes jeune, donc quand vous êtes né, et il y avait déjà Amazon. Qu'est-ce que ça change, si ça change quelque chose à votre rapport à la littérature par rapport à celui de vos aînés ?
Votre chronique était très belle. C'est vrai que ce qu'il y a de plus beau dans la rencontre, ce sont sans doute les hasards qui y président. Et je crois que les libraires sont aujourd'hui les garants de la sauvegarde de la littérature. Et je pense qu'Aurélien Bélanger sera d'accord avec moi. S'il n'y avait plus de libraires aujourd'hui, il n'y aurait plus de littérature. Amazon ne permettrait pas aux véritables écrivains de trouver leur public.
Mais vous, par exemple, quand vous nous dites que vous avez découvert Gary, là, cette fois-ci, c'était avec l'école, c'est au lycée que vous avez lu Gary. Pour le reste, les autres découvertes littéraires que vous avez faites, c'était en librairie, c'était au travers de la critique littéraire ?
Au travers de la critique et puis au travers du bouche à oreille, c'est-à-dire des amis qui sont de grands lecteurs et qui me recommandent la lecture de certains livres.
Une anachronique culturelle aujourd'hui, l'émission en podcast natif que vous pouvez télécharger et podcaster, Mathilde Sérel.
Jardin de l'Italie, oh Pompéi, c'était toi la plus jolie.
Puisqu'on va voyager dans le temps lors de ce festival Imagine samedi et dimanche au centre Pompidou, de la préhistoire à la fin du monde, j'ai décidé de vous faire une petite découverte. C'est la première fin du monde, une sorte d'instantané de la première fin du monde. Nous sommes en 1748 et à la cour des Bourbons de Naples et de Sicile, le roi Charles va lancer des fouilles en compagnie. On découvre alors Pompéi, cette cité antique romaine qui a été détruite mais figée sous des roches volcaniques détruites lors de l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Et bien cet instantané de vie et de mort et de première fin du monde va irriguer ensuite toute la création et c'est également la naissance de l'archéologie moderne.
On retrouve l'anachronique culturelle sur le site de France Culture, franceculture.fr. Voici la conclusion d'Aurélien Bélanger.
L'avenir du monde repose sur l'EPR de Flamanville. Et c'est un avenir incertain, plein de vices cachés, de malfaçons invisibles, de défauts structurels. Des falsifications à la fonderie du Creusot ont ainsi affecté la crédibilité de sa cuve. Et on se souvient des aventures d'une autre pièce de métal géante, l'hélice du porte-avions Charles de Gaulle et de sa rupture mystérieuse au large de la Guadeloupe. L'inconnue financière est peut-être plus inquiétante encore. À mesure que le chantier s'allonge, le coût du futur réacteur nucléaire explose et irradie les finances publiques. Je me souviens d'une nuit, sur la presqu'île du Cotentin, quand une alarme incendie m'avait brutalement arraché au sommeil et précipité en caleçon dans un couloir peuplé de mystérieux ouvriers parlant une langue inconnue. L'EPR voisin ressemblait soudain au chantier de la tour de Babel, frappé hurlante par la malédiction divine. Et la malédiction pourrait avoir commencé. EDF, l'électricien national, le cadeau du Conseil national de la résistance à la France libérée, le remodeleur des paysages, le garant de l'indépendance nationale, pourrait n'être plus qu'une modeste balane accrochée à la grosse voûte grise de l'enceinte de confinement du futur EPR. La France n'est peut-être à son tour entraînée par les choix hasardeux de l'électricien qu'un autre coquillage accroché à la coque de ce naufrage industriel, de cette future faillite de la filière électronucléaire et de celle d'un État rendu par la dissuasion nucléaire, étroitement dépendant de celle-ci. On assiste peut-être là moins à un chantier qui prend du retard qu'à la cause probable de la rétrogression imminente et brutale de la France, du rang de puissance à celui de pays. Le décrochage industriel avec l'Allemagne n'aurait été qu'un avant-goût. Bientôt la France serait entraînée avec sa technologie morte dans des abysses de décadence. Alors on s'interroge ici ou là sur la nécessité de continuer ce chantier et les arguments écologiques et financiers s'enchaîneraient sans difficulté s'il n'y avait eu l'apparition providentielle d'un argument climatique. On a beaucoup vu passer ces derniers jours un diagramme qui classait les différentes sources d'énergie électrique exploitées par les pays européens selon deux critères, leur puissance en mégawatts et leur rejet de CO2 par kilowatt-heure. La Pologne représentait un petit nuage de points gris charbon en haut à gauche. La Suède, abreuvée d'hydroélectricité, générait à peu près la même énergie sans presque s'allier le ciel. L'Allemagne, énorme et orange, se démenait tout à droite et cartelée entre ses milliers d'éoliennes et ses mines de lignite géantes. La France, enfin, était tapie tout en bas. Ses réacteurs nucléaires en avaient fait le pays industriel au rejet de CO2 les plus faibles, un modèle de vertu climatique. L'équation ainsi présentée était d'une simplicité redoutable. La seule porte de sortie, la seule issue à la crise climatique, à moins d'un hypothétique changement de civilisation ou d'un effondrement immédiat de celle-ci, consistait à construire massivement des centrales nucléaires à travers le monde. C'était déjà ce que préconisait le biochimiste anglais Lovelock, l'un des inventeurs de l'anthropocène. Il faudrait, disait-il, faire sortir de terre un réacteur nucléaire par semaine pendant les 20 prochaines années pour enrayer le réchauffement climatique. Les conséquences véritablement catastrophiques des accidents de Tchernobyl et Fukushima sont dans l'arrêt brutal des mises en œuvre de nouveaux projets nucléaires qu'ils ont entraînés, aucune catastrophe nucléaire ne pouvant avoir de conséquences plus néfastes que ce réchauffement irréversible. Alors que Lovelock va fêter en juillet ses 100 ans, je l'imagine marcher en haut des falaises blanches qui entourent l'Angleterre. Il sait ce que cette blancheur a de cadavérique. Il sent sous ses pieds la chute des millions de générations de micro-organismes à travers les eaux sombres des océans disparus. Il sait que notre air fut autrefois relâché comme un gaz toxique par leur bouche microscopique, que cet oxygène corrosif et mutagène est l'immense décharge dans laquelle nous avons pris racine. L'humanité qui va chercher sous la craie blanche les grands linceuls pétrolifères des forêts fantômes a entraîné la Terre dans un nouvel âge géochimique. Et ces bouches asphyxiées de la craie, soudain, ressemblent à des bouches humaines affamées dans un monde parcouru par de grands tourbillons de sable. Bientôt, les hommes seront repris par la mince couche géologique qu'ils auront laissée sur la Terre, assimilée à elle, à moins de réussir à Flamanville ou Inkey Point, là où se dirige peut-être le vieux biochimiste, à négocier un délai avec l'atmosphère, à se construire une sorte de terrier aux grandes portes rassurantes et inquiétantes à la fois, comme les portails d'entrée d'un abri antinucléaire.